Radio Okapi.
Présenté par Belinda Boussouma, voici le sommaire. Braquage et vol à main armée, parfois en plein jour dans les quartiers résidentiels, à proximité des supermarchés et établissements publics, ça se passe ces derniers temps à Kinshasa. Le chef de l'État préoccupé appelle notamment à la mobilisation des services compétents pour stopper cette vague criminelle, il a dit au cours du Conseil des ministres d'hier vendredi. La situation de la malnutrition est très alarmante dans la province de la Tchopo. 43% d'enfants de moins de 5 ans sont les plus affectés. Ceci ressort du plan stratégique multisectoriel de lutte contre la malnutrition. Ce plan demande plus de 184 millions de dollars américains pour sa mise en œuvre, explique le chef de la division provinciale du plan, Norbert Mosunga, est l'invité de ce journal. Voilà tout pour les titres. Madame, messieurs, bonjour. Le président de la République s'est dit préoccupé par la récurrence des braquages et vols à main armée, surtout dans la ville-province de Kinshasa. Ces actes criminels, désormais fréquents et d'une audace préoccupante, se produisent en plein jour dans les quartiers résidentiels, sur les axes routiers principaux, à proximité des supermarchés et établissements publics, constate-t-il. Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit hier au cours de la 46e réunion du Conseil des ministres. Pour cela, il appelle notamment à la mobilisation des services compétents pour stopper cette vague criminelle. On écoute d'autres mesures dans cet extrait du compte-rendu du Conseil des ministres lu par Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, extrait choisi par Alain Rongouching.
Le président de la République a rappelé l'impératif de rétablir l'ordre, la sécurité et la conscience de citoyens. À cet effet, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a mobilisé sans délai les services compétents pour mettre en œuvre une riposte vigoureuse, coordonnée et durable face à cette vague criminelle. Les mesures à mettre en œuvre devront inclure le renforcement des opérations de sécurité sur l'ensemble du territoire urbain de Kinshasa, des patrouilles intensifiées et une surveillance accrue dans les zones sensibles, en particulier durant les heures de pointe, l'augmentation visible des effectifs des policiers et militaires le long de grands axes dans les quartiers à risque et autour des zones commerciales, un durcissement de la répression et des poursuites judiciaires contre les auteurs de ce genre d'actes de banditisme, la poursuite de l'opération Dobo.
Le parti politique Alternative 2028 s'insurge contre la léthargie de l'action gouvernementale face à la misère de la population et plaide pour des actions urgentes et efficaces, notamment dans le secteur des infrastructures. Dans une lettre ouverte adressée au président de la République et parvenue ce matin à Radio Okapi, ce parti cher à Dos Nombasi juge l'inaction du gouvernement de profond mépris pour la souffrance du peuple. Son président plaide pour des mesures conséquentes afin de rendre le gouvernement plus dynamique et réactif aux problèmes de la population. Ados Ndombasi l'a dit au micro de Michel Kifindangoy.
Après l'échec du gouvernement des Warriors, le peuple espérait un gouvernement des cataphractaires, résolu à affronter les vrais problèmes du pays dans le fond. Hélas, nous avons à la place des responsables apathiques dont l'attitude traduit un profond mépris pour la souffrance du peuple. Nous demandons au président de la République de réveiller ses collaborateurs et adapter une dynamique de travail rigoureuse et sérieuse, digne des vrais ouvriers de la République. Eux ont pour rôle de produire des résultats tangibles dans leurs domaines respectifs pour rencontrer les désiderata du peuple. Alternative 2028, nous considérons la République démocratique du Congo comme un vaste chantier où nous devons travailler de manière intense. Il est inconcevable que nous ayons des chantiers qui fonctionnent seulement de 8h à 16h.
Entre-temps, des réactions continuent à tomber après l'élection de la RDC mardi 3 juin comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2026-2027. La dernière en date est celle de l'ASBL Congo Action pour une diplomatie agissante, CADA. Dans une déclaration publiée hier vendredi, CADA estime pour l'Afrique, c'est une victoire symbolique et stratégique. Le continent, souvent relégué au statut d'objet de décisions sécuritaires prises ailleurs, obtient ainsi une voix directe pour faire entendre ses priorités et défendre ses intérêts. La RDC, avec sa position géostratégique et sa réalité sécuritaire complexe, incarne les défis et les espoirs d'une Afrique qui veut cesser d'être spectatrice des décisions globales. C'est ce que pense Eric Kamba, coordonnateur de CADA. Il est joint par Alain Romouchinj.
La RDC a donc une responsabilité historique. Elle devra faire preuve de leadership et de cohérence et des capacités d'initiative. Elle devra porter avec courage les dossiers brûlants qui touchent directement sa propre sécurité, notamment les conflits dans sa région Est, la prolifération de groupes armés, l'ingérence des pays voisins, des violations ou de droits internationaux humanitaires et les pillages systématiques de ses ressources naturelles. Il s'agit là d'un réel test pour la diplomatie africaine. La RDC, qui doit être secondée par tous les autres pays, doivent faire avancer les dossiers liés à la réforme du Conseil de sécurité de cette instance, à savoir à la lutte contre l'impunité et la souveraineté de peuples africains. L'élection de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU est donc un événement historique. Il faut s'en servir avec détermination. La RDC a désormais une voix, une plateforme, un levier. Vous savez, le monde regarde, l'Afrique espère, le peuple congolais attend. Que ce mandat soit celui du réveil diplomatique, de la justice internationale et d'un plaidoyer sans relâche pour la paix.
Parlons santé à présent. La situation de la malnutrition est très alarmante dans la province de la Tchopo. 43% d'enfants âgés de moins de 5 ans sont les plus affectés. C'est ce qui ressort du plan stratégique multisectoriel de lutte contre la malnutrition. Ce plan quinquennal 2025-2030 a été présenté hier au gouverneur par intérim par le chef des divisions provinciales du plan. Il nécessite plus de 184 millions de dollars pour sa mise en œuvre. Des précisions avec Jacques Moukonkolé.
C'est en 2024, à l'issue des enquêtes menées, qu'il a été constaté que les enfants âgés de 0 à 59 mois souffrent de la malnutrition, révèle le chef de division provinciale du plan. Parmi les facteurs favorisant cet état des choses, figurent notamment la méconnaissance de la nature des aliments à consommer, les pratiques alimentaires relatives aux us et coutumes dans différentes tribus, ainsi que la pauvreté. En vue de lutter contre cet état des choses, un plan multisectoriel de lutte contre la malnutrition est élaboré. Il comprend plusieurs axes d'intervention, comme l'explique le docteur Norbert Mosunga, chef de division provinciale du plan.
La première action est de pouvoir faire en sorte qu'on puisse informer et former les communautés en ce qui concerne l'usage des aliments nutritifs et des micronutriments qui puissent donner l'occasion aux enfants et aux femmes de pouvoir maintenir leur état de santé nutritionnelle.
Ce document a été remis à l'autorité provinciale qui, à son tour, le transmettra à l'Assemblée provinciale pour un toilettage avant sa mise en œuvre. Signalons que les fonds pour son exécution sont attendus aussi bien du gouvernement provincial que de ses partenaires. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Par ailleurs, chaque année en RDC, au moins 5000 enfants naissent avec la malformation du pied bot. Parmi eux, environ 1000 seulement sont traités gratuitement à travers le pays par l'organisation Upwards ou l'Espoir de marché. Selon Semu Sikulimwenge Vincent de l'organisation Upwards, les enfants nés avec cette malformation congénitale ont un pied ou les deux tournés vers l'intérieur ou vers le bas. Il déplore le fait que l'instabilité sécuritaire actuelle entrave le suivi régulier des nombreux enfants. Il plaide donc pour l'intégration de la prise en charge du pied bot dans les soins de santé primaire. Cette mesure permettrait aux parents de ne plus être contraints de voyager sur des longues distances pour accéder aux structures des soins spécialisés. Pour lui, une telle approche réduirait significativement le nombre d'individus vivant avec cette malformation au sein de la communauté. On l'écoute.
Dans les zones où règne une instabilité sur le plan sécuritaire, certains parents ratent les rendez-vous pour leurs enfants, d'où les cas de récidive. En RDC, selon les statistiques que nous avons, c'est qu'il y a plus de 5 000 enfants qui naissent avec les pieds beaux. Avec l'organisation HopeWorks, en partenariat avec Heal Africa et PNRBC, nous réussissons à soigner à peu près 1 000 enfants. Donc, il y a plus de 4000 enfants qui restent dans la communauté et ils grandissent avec les cas des pieds beaux. D'où un appel à tous les partenaires qui peuvent vouloir nous accompagner, qu'ils se joignent à nous pour que les enfants puissent avoir l'accès aux soins et pourquoi pas dans l'avenir que les traitements des pieds beaux soient intégrés parmi les soins de santé primaire pour que ces paquets soient disponibles dans presque toutes les structures sanitaires parce que c'est bien confirmé selon les études scientifiques que lorsqu'il y a 1000 naissances, on ne pourra pas manquer 4 à 5 enfants qui vont naître avec la malformation des pieds beaux.
Notons que la journée mondiale du pied beau est célébrée chaque année le 3 juin à Goma. L'événement a eu lieu le jeudi 5 juin à l'hôpital Heal Africa sous le thème local « Né pour marcher », donnant à chaque enfant la chance de courir vers son avenir. À cette occasion spéciale, 10 enfants ont été déclarés guéris après avoir bénéficié d'un suivi de plus de 5 ans. Autre nouvelle, les différentes communautés de l'Ituri doivent promouvoir l'amour, le pardon mutuel, la réconciliation, gage d'une paix durable dans cette province. Cet appel a été lancé hier vendredi par le représentant provincial de la communauté musulmane à l'occasion de la fête de Tabaski, encore appelée fête des moutons. Des centaines de musulmans réunis au terrain de Sayo à Bounia ont également exprimé leur solidarité aux personnes vulnérables. C'est un reportage de Bilobaati.
Ce vendredi, le terrain de Sayo Mohamed à Bounia était rempli de fidèles musulmans, hommes, femmes et enfants, tous vêtus de leurs plus beaux habits, ont passé plusieurs heures de dévotion et prié notamment pour le retour de la paix en Ituri. Dans ce message, le cheikh Choukran Biaroufou a exhorté la population de cette province à cultiver la tolérance, le pardon, la réconciliation qui sont des valeurs nécessaires pour une paix durable. Surtout en cette période où l'Ituri passe par des moments de turbulence.
L'Ituri passe des moments difficiles. La réquisition de l'insécurité dans notre province. Donc nous sommes censés en tout cas implorer à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il y ait quand même une paix durable dans notre province.
Les fidèles musulmans ont remis des dons de vivre aux nécessiteux pour témoigner leur solidarité en souvenir du geste du prophète Ibrahim qui a sacrifié son fils Ismaël. Cela dans le but d'inciter la population à renforcer les liens de fraternité et de cohabitation pacifique. L'un d'eux, Alex Chabdina.
C'est un moment de partage, de solidarité, de communion mutuelle et aussi de cohésion sociale. C'est un moment de se réconcilier à travers vos amis, à travers vos frères. Si vous avez des mésententes, des désaccords, des conflits entre vous, c'est le moment de se réconcilier.
Cette fête de la Tabaski est célébrée tous les musulmans dans les 5 territoires de l'Ituri.
Toujours dans les cadres de la fête de la Tabaski au Maniema, le représentant légal de l'islam en province lance la campagne sur la protection de l'environnement selon l'enseignement islamique. Il sera question pour tous les musulmans durant ce mois de juin de procéder aux travaux d'assainissement à travers la ville de Kindu. On écoute le représentant légal Cheikh Ali Omar Imwana Yamba au micro de Florence Kizalunga.
Les musulmans ont deux grandes fêtes qui sont célébrées à travers le monde. C'est ce que nous appelons, nous, les fêtes d'Eid et Eid al-Adha. Donc, la fête de Fitr qui est consacrée à nourrir les pauvres, à nourrir les nécessités. Et la fête d'Adha, c'est la grande fête qu'on appelle aussi la fête des moutons ou des tabaskis. Ce que nous appelons une heureuse coïncidence. Notre fête des tabaskis est célébrée aujourd'hui à la date du 5 juin et la lutte contre la pollution, surtout des déchets plastiques ou protection de l'environnement. C'est aussi célébré aujourd'hui. Nous ne pouvons pas être des observateurs, nous musulmans. Nous devons être des acteurs et actifs même. Parce que le Coran l'a dit, nous musulmans, à partir de Dieu, à partir de notre prophète, nous avons l'obligation de protéger l'environnement. Et surtout aujourd'hui, comme on dit, il faut lutter contre la pollution de plastique. Cette lutte a commencé depuis très longtemps, même dans certains pays qu'on ne sait pas citer ici. Il est interdit de voir des plastiques parce que les plastiques détruisent l'environnement. Ils ne se détériorent pas et alors il faut vraiment contribuer. Nous aussi, nous ne pouvons pas être des spectateurs comme on a dit.
Dans l'actualité aussi, la ville de Kinshasa a accueilli la 4e édition de Impact Job Days. Il s'agit en effet d'un salon de recrutement qui met en relation les chercheurs d'emploi et les recruteurs issus des divers secteurs. C'est notamment l'économie, les transports, l'agroalimentaire et bien d'autres. Détails dans ce reportage de Greta Lulendo.
En seulement 2 jours, Impact Job Days a permis la création d'un véritable réseau d'entrepreneurs à Kinshasa.
Patrick Guinco, expert en gestion des ressources humaines et l'un des organisateurs, a encouragé les jeunes désireux de se lancer dans l'entrepreneuriat de se faire accompagner pour maximiser leurs chances de réussite.
Ils ont besoin d'accompagnement et donc à Impact Job Days, ils viennent apprendre comment créer un réseau, comment convaincre un client et surtout quelles sont les bonnes approches et les bonnes stratégies pour assurer la durabilité, la viabilité de leur entreprise.
L'un des intervenants, Joël Timbo, directeur général de Kivu Entrepreneur, a pour sa part exhorté la jeunesse à saisir le nombreuses opportunités qu'offre le secteur agricole.
Il y a des facteurs qui sont à la base du blocage aujourd'hui qui font que les jeunes ne s'intéressent pas à l'essentiel. C'est notamment cette honte de se lancer dans des activités qui sont négligées, notamment la production agricole. Les vraies opportunités, c'est dans la production de ce que nous consommons chaque jour.
Je compte me lancer dans l'agroalimentaire après mes études et cette conférence m'a donné des clés et des stratégies pour bien démarrer, a confié Grace Kamanga, l'une des participantes.
Un entrepreneur doit être patient, il doit être motivé. Il doit vraiment savoir en fait ce qui lui pousse à entreprendre.
Notons que cette 4e édition du salon de recrutement s'est tenue en République démocratique du Congo, Kinshasa et Kisangani, et en République du Congo, Brazzaville.
Actualité internationale.
L'ancien ministre ghanéen des Finances, Ken Oforiatta, fait désormais l'objet d'une notice rouge émise par Interpol. Il est accusé d'avoir utilisé sa fonction publique à des fins personnelles, notamment dans le cadre de la construction controversée d'une cathédrale nationale, un projet ayant coûté 58 millions de dollars au trésor public sans aboutissement concret. Recherché pour corruption, Oforiatta a été déclaré fugitif par le bureau du procureur spécial après avoir manqué une convocation devant une commission d'enquête. Ses avocats assurent qu'il est à l'étranger pour des raisons médicales et dénoncent une procédure injuste malgré la transmission de certificats médicaux. Et puis, près de 29 millions de personnes ont besoin urgent d'aide humanitaire et de protection au Sahel. C'est ce qu'affirme le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, dans un rapport publié cette semaine. L'étude porte sur le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, le Niger, ainsi que l'extrême nord du Cameroun et le nord-est du Nigeria. L'organisation en appelle aux donateurs et prévient, sans les fonds nécessaires, des millions de vies seraient en danger.
L'invité.
Je vous le disais tantôt, la situation de la malnutrition est très alarmante dans la Tchopo. 43% d'enfants de moins de 5 ans sont les plus affectés. C'est ce que révèle le chef de division provinciale du plan, Norbert Mosunga, répond aux questions de Jacques Moukonkolé.
Monsieur le chef de division provinciale du plan, bonjour.
Bonjour.
Quelle est la situation de la malnutrition dans la province de la Tchopo?
La situation de la malnutrition en province de la Tchopo est vraiment alarmante. C'est pour cela, l'année 2019, nous avons élaboré un plan stratégique à travers l'Organisation des États généraux de nutrition et de l'agriculture qui a reçu à l'unanimité tous les partenaires techniques et financiers et les gouvernements, qui a conduit à la signature d'un pacte que nous avons dénommé pacte de Kisangani. Mais malheureusement, ce document fédérateur que nous avons produit n'a pas été vraiment mis en œuvre. Pourquoi? Puisque les signataires même ne se sont pas manifestés. Et nous constatons que notre plan qui était élaboré était devenu désuet et que, avec les instructions du niveau central, nous étions obligés de pouvoir produire ces documents, qui est le plan provincial stratégique multisectoriel pour la nutrition, qui est en soi un outil à mettre à la disposition de l'autorité provinciale, qui a des politiques et des stratégies pour pouvoir lutter contre cet état de choses au niveau de la province et surtout ce qui décime les enfants de 0 à 59 mois.
Quel est le taux de la malnutrition dans notre province?
Le taux de la malnutrition dans notre province est actuellement, à travers les enquêtes qui ont été menées en 2024, nous avons un taux de 43% de malnutrition au niveau de la province. Vous voyez que c'est très grave, c'est très alarmant.
Et quels sont les facteurs qui favorisent cette situation?
Bon, les facteurs qui favorisent cette situation sont tellement nombreux. Il y a la méconnaissance sur la nature des aliments qu'on devrait consommer. Il y a aussi les mauvais usages et les pratiques alimentaires qui constituent des us et coutumes dans nos différentes tribus. Il y a également la pauvreté de la population qui fait qu'on n'arrive pas à pouvoir s'approvisionner et on n'est pas en mesure de pouvoir avoir les aliments essentiels
et utile pour pouvoir se nourrir. Et aussi, il y a la méconnaissance de la multisectorialité à ce qui concerne la nutrition et les niveaux bas de l'éducation de la dame qui constitue la maman qui doit mener à bon port l'enfant dès sa naissance jusqu'à son âge adulte.
En élaborant ce plan stratégique, quels sont les objectifs que vous poursuivez?
Oui, les objectifs poursuivis, ce sont les objectifs qui convergent vers l'amélioration de l'état nutritionnel et la situation socio-économique de la population dans la province de la Tchoupo.
De façon concrète, quelles sont les actions que vous comptez mener pour arriver à réduire la malnutrition?
Bon, les actions sont très nombreuses, hein, mais la première action est de pouvoir faire en sorte qu'on puisse informer et former les communautés en ce qui concerne l'usage des aliments nutritifs et des micronutriments qui puissent donner l'occasion aux enfants et aux femmes de pouvoir maintenir leur état de santé nutritionnelle. Et aussi, en deuxième lieu, nous avons vu, par exemple, au niveau des écoles, il y a de ces produits malsains qui sont vendus, tels que les jus, et qu'on ne sait pas vraiment la composition exacte, et qui entraînent beaucoup plus des nuisances dans la vie de nos enfants. Il faut mettre en sorte, il faut interdire ce système de santé et ce système ce système qui est devenu usuel.
À quelle hauteur d'enveloppe estimez-vous nécessaire pour la mise en œuvre de ce programme?
Bon, la mise en œuvre de ce projet a été budgétisée à la hauteur de 184 248 628 dollars américains pour les 5 ans qui sont prévus pour la mise en œuvre de ce programme.
Et d'où viendront les fonds?
Bon, les fonds, nous savons que le gouvernement mobilise des ressources internes et nous savons que les partenaires techniques et financiers qui œuvrent dans ce domaine de nutrition et ceux qui contribuent et aident la province à pouvoir s'émanciper ne manqueront pas de pouvoir venir en aide pour soutenir la province dans ce sens-là de lutte contre la malnutrition au niveau de notre province.
Monsieur le chef de division du plan, Norbert Masunga, merci.
C'est moi, à moi à vous remercier grandement.
Notre invité répondait aux questions de Jacques Moukonkolé. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima Aouta, Alain Roumouchinge l'a supervisé et Polydor Basunga à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.